liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 23, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, le sommaire.
9 jolis articles, beaucoup d'articles à côté, allez jeter un œil. On va vous parler de liberté et de menottes numériques. Les députés qui peuvent changer de distribution entre Windows et Ubuntu. La contrefaçon et ACTA. Les candidats qui ont signé le pacte du logiciel libre.
Oh.
Un article sur les inrecuptibles qui va nous parler d'open source, un peu global. La guerre des brevets, ça continue encore et encore. L'open data, le Québec et les millions qui vont aller dans les poches de Microsoft. Et pour finir, on va parler d'imagerie médicale en Algérie.
Ne bougez plus, ne respirez plus.
Premier article, Bug Browser. Je n'ai pas le droit de lire le livre que j'ai acheté. Un article de Jean-Marc Manac. Bug Browser, c'est un blog du Monde. Donc Jean-Marc Manac, journaliste du Monde. Blogueur très connu dans le domaine, qui est beaucoup plus centré sur la question de la surveillance en général. Et là, il nous signe un article très centré sur le logiciel libre. Et qui montre le pack Liberté, cette campagne d'Apple Addon qui est clôturée maintenant, mais qu'on avait lancée avec Framasoft et la quadrature du net. Donc ça fait plaisir d'être cité, tout ça, c'est sympa. Mais en tout cas, donc l'article très intéressant parce qu'en fait, il revient sur un cas pratique de DRM et il montre à quel point c'est pénible.
Voilà, il prend son cas, il prend un exemple. Il a acheté des livres papier, il a acheté des livres numériques. Un des livres numériques qu'il a pris, eh bien, il ne peut pas le lire avec son matériel. Il n'est pas libre de le lire. Et la seule manière qu'il aurait d'y accéder, c'est de le pirater, simplement, parce que ça lui est interdit par les autres moyens et il est interdit de le contourner. La loi est vraiment contre lui, il n'a pas de chance de ce point de vue-là, mais il met en avant toute la problématique du droit de lire et qu'il a bien compris et qu'il nous représente encore une fois.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment Jean-Marc Manac, c'est pas un noob, il sait où il met les pieds, donc il explique qu'il a plusieurs équipements, dont un ordinateur sous GNU Linux, qu'il a quand même pris la peine de vérifier si son achat allait être compatible, parce qu'il n'est pas né de la dernière pluie non plus, et vérifier que la technologie était compatible avec GNU Linux, et c'était bien le cas. Sauf que l'éditeur du livre numérique a rajouté un système supplémentaire que la technologie qui est utilisée, de protection, donc un DRM contre la copie, et qui du coup rend le machin inopérant et ne fonctionne pas sous GNU Linux. Et donc ça, évidemment, il ne pouvait pas le savoir avant de l'acheter. Il y a toute une histoire de lecteur de CD-ROM qu'il faut avoir et tout ça. Et donc c'est tout un micmac, et on voit que dès qu'on sort un peu du cas ultra standard dans lequel finalement personne se trouve, parce qu'on a tous des configurations plus ou moins compliquées, et ben ça marche plus. Et donc la seule façon de faire, c'est de contourner le DRM, c'est-à-dire d'être hors la loi, et il est assez mauvaise. Du coup ça lui rappelle ce texte, vieux texte de Richard Stallman qui était Le droit de lire, un texte qui avait été écrit en 1997, donc ça remonte à loin, et qui imaginait un monde dans lequel on puisse plus ouvrir ses livres et où on soit contraint, etc. C'est une sorte de façon de faire un parallèle avec l'informatique, donc il dit qu'à l'époque il avait pris ça pour de la science-fiction. Voilà, donc il est tellement énervé qu'en gros, il cite des gens de Pirate Bay, hein, donc les fameux pirates qui ont beaucoup de soucis. Cessez de voir leurs films, arrêtez d'écouter leur musique, faites en sorte de trouver d'autres façons d'aborder la culture. Donc il cite ça et il dit clairement, en attendant, je n'achèterai donc plus aucun livre, disque ou film, sauf à avoir l'assurance que je pourrai le lire sur mon ordinateur libre. Donc voilà, Jean-Marc Manac fait le choix du libre et de ne pas lâcher ses libertés contre un petit peu de confort.
Et il termine pour reparler d'ACTA et reparler des libertés qu'il faut défendre. Bien, il fait carrément un appel de venir nous aider au sein de l'April, de Framasoft, de la Quadrature du Net. Il montre le pack Liberté, ça me fait plaisir, j'avais travaillé dessus. Donc très bien, un bon gars. Et cet article-là a été repris par ailleurs dans d'autres lieux, donc je le recommande. Et Jean-Marc Manac est quelqu'un à suivre.
PC Impact, les prochains députés devront choisir entre Ubuntu et Windows, un article Marc Reiss. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle.
C'est la très mauvaise nouvelle, et en plus c'est une nouvelle surprenante qui a surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a surpris Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, parce qu'en fait les députés depuis une législature étaient sous Ubuntu, un Ubuntu géré par une entreprise française qui l'avait installé, configuré, maintenu, de ce qu'on sait. Et justement, c'est ça qui nous surprend, de ce qu'on sait, tout se passait très bien. Il n'y avait pas eu de problème qui nous avait été remonté. Et bien là, non, il y a une décision qui a été prise, c'est de laisser le choix Donc a priori ça semble bien, mais laisser le choix entre du libre, Ubuntu, et du propriétaire, du privateur, donc Microsoft, quitte à devoir payer les licences avec et à être bloqué de plein de manières. Donc ce sont les députés qui vont arriver, qui vont choisir, sauf qu'on le sait, il y en a beaucoup qui, comme beaucoup de gens, ne savent pas ce qu'est Ubuntu, ont une idée ou une vague idée de ce que c'est Windows, et sans avoir l'idée de tout ce qui se passe derrière, l'arrière-monde des libertés qui sont perdues, en allant de ce côté-là, et ils risquent de choisir ça. C'est un peu rageant.
Alors, il y a d'autres trucs qui passent au propriétaire, notamment au niveau du mail, agenda, etc. Donc, c'est Microsoft Exchange qui sera installé. Donc, là aussi, ça fait un petit peu mal, même si on peut y accéder avec du logiciel libre. En revanche, le navigateur Firefox sera installé par défaut, quelle que soit la configuration. Bon, c'est une maigre consolation. L'article dit que Microsoft avait fait de gros efforts sur le prix des licences, on s'en doutait. C'est assez symbolique, mais malgré tout, évidemment, cette décision de passer sous Ubuntu en 2007, elle était très politique. Donc aujourd'hui, le fait de revenir en arrière de cette façon, c'est également politique. Voilà, et on regrette que sur les problèmes techniques qui ont été évoqués, on n'en connaît pas plus, on n'a pas de détails, que ce soit pas remonté, sorti, etc. Quand on a un problème technique qui peut arriver avec n'importe quel type de solution, on peut exiger d'avoir quelque chose qui fonctionne, et on sait que le logiciel libre, ça fonctionne très bien, et mieux que le logiciel propriétaire bien souvent. Leparisien.fr, contrefaçon sur internet, nouvelle manifestation en France contre l'ACTA, une reprise d'une dépêche de l'AFP, et le résultat des manifs de ce samedi qu'on évoquait la semaine dernière, donc c'est loin d'être un succès. Les dernières qu'on avait fait cet hiver, il n'y avait pas grand monde, là il y avait encore moins de monde. Moi j'ai réussi à rater celle de Toulouse alors que j'y étais, je suis arrivé un peu trop tard, on m'a perdu dans les méandres des rues toulousaines. Voilà, donc là en gros un peu plus de 200 personnes, nous dit l'AFP, à Paris et à Toulouse. Bon, il rappelle ce que c'est qu'ACTA. Alors évidemment, on disait la semaine dernière, au niveau européen, ça s'engage plutôt bien. Un certain groupe de travail, en quelque sorte, 4 ont voté contre, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est loin d'être gagné, et il faut maintenir la pression. Alors quelques citations.
Ce n'est pas parce que la technologie numérique permet de contrôler les usages qu'on doit laisser les industries culturelles contrôler notre usage privé de la culture. Donc, citation de Frédéric Couchet, hein, qui n'en démord pas, qui était habillé tout en jaune. Il doit y avoir des photos qui traînent sur Internet. Il avait une tenue anti-nucléaire, anti-biologique, je ne sais plus, jaune, assez visible, c'était sympa.
Autre citation, c'est grave, on ne fait que nous contrôler, c'est comme dans le livre 1984. Si on n'ouvre pas notre gueule, c'est ce qui va nous arriver. En l'occurrence, on n'a pas son nom, mais c'est un chauffeur routier de 34 ans, comme quoi on trouve de tout. Même s'il n'y a pas grand monde, on n'a que des gens de qualité et de tous horizons dans ces manifs et qui sont mobilisés contre ACTA. Numérama, 419 candidats ont signé le pacte du logiciel libre, un article de Julien L. Le pacte du logiciel libre, c'est dans le cadre de la campagne candidat.fr où à chaque élection, l'April va aller en rencontrer, solliciter les élus sur différents cas, et dans le cas législatif, un pacte, donc une lettre simple, un principe d'engagement, et on va en gros aller voir les députés pour leur proposer de signer ça. Donc on en a 419 candidats qui l'ont signé, et donc cette semaine, là, on lance une opération 72 heures pour le logiciel libre. Les 72 heures du logiciel libre, l'idée étant de faire signer un maximum de candidats du second tour.
Donc ce qu'on vous demande de faire, parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile si vous nous écoutez, donc c'est de prendre un peu de temps pour vous, de vous connecter sur candidat.fr, d'aller voir dans vos circonscriptions quels sont les élus qui se présentent, et de voir donc s'ils n'ont pas signé le pacte du logiciel libre, vous pouvez essayer de les contacter. Alors il y a plein de manières de faire, hein. Ça peut même être un tweet, un coup de fil bien sûr, un email, ou encore mieux, imprimer le pacte lui-même et aller le donner dans un marché ou quand les candidats font du porte-à-porte, et ils en font. Donc ça peut toujours être sympa parce que finalement eux, ils ne connaissent pas forcément de quoi il s'agit, et les actions peuvent vraiment avoir un impact, un effet assez immédiat. Je sais, dans ma circonscription, il y a eu quelques votes grâce à ma femme, donc qui était toute contente.
Quelques signatures, je veux dire.
Quelques signatures, oui, quelques signatures. Et donc, bon, très bien, il faut continuer pour le deuxième tour et faire en sorte que, justement, les députés qui vont arriver dans l'hémicycle connaissent déjà le logiciel libre.
Les Inroc High-Tech, la révolution de l'open source, par Philippe Richard. Je crois que c'est la première fois qu'on a un article là-dessus. Non, peut-être pas. Bon, en tout cas, ça arrive peu souvent. Donc, avec une belle photo de Richard Stallman au début de l'article. Donc, c'est un article généraliste qui parle vraiment de logiciel libre et pas d'open source. Et qui parle de philosophie. Ça fait plaisir à voir parce qu'on va vraiment parler du cœur du logiciel libre et pas le petit côté pratique, oulala, c'est gratuit, etc.
Voilà, et ce qui fait plaisir, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez grand public qui parle assez bien, sans faire de grosses erreurs, du logiciel libre, qui présente ce que c'est que l'open source et la différence qu'il y a entre les deux. Déjà, c'est vraiment à apprécier, qui met en avant Stallman parce que la photo est pas mal du tout, et les inoccupables qui parlent du logiciel libre, ça fait plaisir. quelque chose qui a assez d'impact. J'espère que ça va continuer et qu'on va avoir plein d'articles comme ça pendant cet été.
Alors, petite critique quand même, l'articulation entre le projet GNU et le noyau Linux n'est pas claire, c'est pas tout à fait bien articulé, donc je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ne va pas trop comprendre le lien et pourquoi on a collé les deux. Enfin bref, c'est déjà bien que cet article existe. ZDNet.fr, guerre des brevets, Apple veut bloquer le lancement du Galaxy S3 aux États-Unis, un article de la rédaction. C'est une nouvelle bataille de la guerre des brevets logiciels, hein. On arrive sur un nouveau terrain, donc c'est celui des smartphones. On sait qu'Apple a cassé la baraque avec l'iPhone, mais qui se sont fait griller par Samsung notamment, qui aujourd'hui est en pointe, et qui lance son Galaxy S3, donc du haut de gamme, et qui coûte, voilà, qui coûte un bras, un œil, en fonction de ce qui vous reste. Et ben là, Apple, donc stratégie simple, agressive, et pour bloquer son concurrent, c'est l'attaquer sur les brevets en disant...
Et voilà, ils enfreignent nos brevets, et donc on ne peut pas les laisser rentrer. Ça se passe aux États-Unis, et effectivement, ça a l'air d'avoir un certain effet, mais ce qui est amusant, c'est que pour une fois, bien, le juge qui est en jeu, il en a marre. Il est irrité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est la juge fédérale Lucico, qui a prévenu qu'elle ne voulait plus être accaparée par les querelles commerciales entre les deux géants. Bah oui, hein, parce que c'est de la perte de temps, tout ça, c'est des chicaneries qui fonctionnent assez bien, parce qu'il y a d'autres pays qui sont en jeu et qui peuvent péter le lancement d'un tout nouveau téléphone. Donc, c'est commercialement très important, c'est des millions qui sont en jeu.
Oui, parce que l'ambition d'Apple, c'est de bloquer le lancement du téléphone et non pas simplement... de demander des dommages et intérêts, c'est dire non, non, il ne faut pas le commercialiser, il doit être interdit à la vente.
Donc ça peut vraiment être douloureux pour Samsung, bon, qui s'en sortira par ailleurs, mais et surtout c'est qu'il y a d'autres brevets qui sont en jeu dans d'autres juridictions. C'est toujours amusant, c'est la guerre mondiale des brevets, et c'est toujours aussi débile.
OVNI, l'open data à la croisée des chemins juridiques, un article de Lionel Morel, alias Calimac. On avait déjà cité cet auteur sous ce pseudo. Donc ça revient sur l'open data, c'est un long article, vraiment costaud, de quelqu'un qui connaît manifestement le sujet extrêmement bien. Si le sujet vous intéresse, allez-y, sans hésitation. C'est un gros morceau, mais ça vaut la peine. Donc il y a toute une série de problématiques qui sont ressorties sur la question de la gratuité des données, le type de licence, les problèmes notamment dans les transports, les données culturelles, où là-dessus les nouvelles sont pas très bonnes. Sur ces questions de licence, est-ce qu'il faut quelque chose de très proche, de très ouvert, très proche du domaine public, ou est-ce que le copyleft est un principe qui permettrait de vraiment de faire de ces données-là un bien commun. Et voilà, donc toute une série de problématiques très bien documentées, très complet.
Et je tiens à rajouter, oui, parce qu'il va assez dans le détail, il met bien en vision les problèmes qu'il y a entre certaines lois européennes et des lois françaises, parce que parfois, il y en a une qui est plus avantageuse dans certaines circonstances, notamment pour le côté culturel, l'exception française, et les décrets ou les lois européennes ne jouent pas de la même manière. Donc c'est assez amusant, vraiment, allez jeter un œil à cet article-là pour mieux comprendre, et puis en plus, on voit que le CNN numérique va peut-être être utile, ce qui est pas mal du tout.
CNN, c'est le Comité National du Numérique, donc une institution dans laquelle il y en a essentiellement des acteurs de l'entreprise privée, et quand ce truc a été lancé, on avait quelques doutes en se demandant ce que ça pouvait donner. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Le journal de Québec, Québec se prive de millions, par Régis Caron. Donc là, on retrouve notre feuilleton québécois, donc avec toujours les mêmes intervenants, les trois personnages, donc Cyril Béraud, Benoît Deligneris et Daniel Pascot, dont on a parlé, je crois, la semaine dernière. Donc là, c'est relayé par une députée, Taillon-Marie Malavoie, qui reproche donc au gouvernement, députée de l'opposition évidemment, qui reproche au gouvernement québécois de faire le choix de Microsoft et donc de renoncer à 450 millions d'économies, 450 millions de dollars canadien. Voilà, donc après ça se frite au niveau des accusations de lobbying.
Oui, alors ça m'amuse toujours parce que c'est un sujet que je commence à apprécier de plus en plus, la corruption, les conflits d'intérêts. Et là, on se rend compte, il y a un ancien collaborateur du Premier ministre qui fait du lobbying pour Microsoft Canada, et ça c'est pas anodin parce que ce sont des gens qui ont des portes ouvertes et grandes ouvertes devant eux et qui le font pas pour le bien commun mais pour de l'argent tout simplement. Petit détail, il y a un retour de manivelle parce que faut remarquer aussi qu'il y a un des gars qui se bat pour le logiciel libre qui lui aussi a été lobbyiste à une autre époque, et qui avait gagné 200 000 dollars. Bon, je pense qu'ils le font tous.
Alors c'est l'ancien directeur général du Parti québécois, donc c'est pas nécessairement battu pour le logiciel libre, mais en tout cas, il montre qu'au Parti québécois, on n'a pas peur non plus d'être lobbyiste. Maghreb émergent, l'open source au service de l'imagerie médicale en Algérie, un article d'Abdelkader Zahar. Donc c'est le même site et le même journaliste que la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Donc quelqu'un qui manifestement se lance sur le logiciel libre à fond, donc c'est très bien. Et qui cite un cas intéressant de développement informatique autour de l'imagerie médicale, notamment sur le cerveau, sur les histoires d'IRM, etc. Faites par des universitaires, trois femmes, et voilà, qui expliquent comment elles s'y sont prises, quels sont les enjeux, etc. Donc sujet est très intéressant de ce côté-là.
Oui, parce qu'on peut apprécier quelque chose qu'on a dit dans le passé, c'est le fait que le logiciel libre et la science, d'une manière générale, partagent des mécanismes et des fonctionnements. Et là, ils l'ont bien compris et ils le prennent à bras le corps. Le fait de pouvoir modifier, étudier, mettre des progrès et les diffuser, c'est du logiciel libre, c'est de la science. Et ça leur est très utile, notamment quand ils ont des nouvelles machines qui arrivent. Il faut pouvoir adapter rapidement les logiciels et il faut pouvoir savoir comment ils fonctionnent, parce que c'est indispensable de ne pas avoir des boîtes noires entre soi et ce qu'on étudie. Donc là, vraiment très bien, allez jeter un œil. Et quelque chose qui vient d'Algérie, mine de rien, ça aussi c'est pas mal, parce que ça fait quoi, un mois maintenant qu'on voit des articles qui viennent de par là-bas. Moi j'applaudis, encore une fois.
Et ben c'est fini.
Et oui, donc sur ce, à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.